Histoire des îles Marquises, de Akakayo te Henua Enana, te Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, Kaohanu, et bienvenue dans cette 27e émission.
Édition 2023.
Rappelez-vous, nous sommes en décembre 1813, et la dernière fois, nous avions assisté à la victoire des troupes alliées de porteurs des Teihi et des Hapa'a contre les Taipi de Wai'i. Maintenant que son navire Essex est remis à neuf, il a décidé de partir. Cette émission va nous faire participer à ses derniers jours à Taiohae. Et dans la foulée, nous verrons ce qui s'est passé après son départ et jusqu'à la fin de 1813. En attendant que son navire soit fin prêt, Porter se déplace dans la vallée en quête de découvertes. Il distribue des graines de melon, de citrouilles, de pois, de fèves, d'oranges, de citrons, de blé même et de maïs, ainsi que des noyaux de pêche qu'il fait semer ou planter à des endroits préparés par les Enana, auxquels il fait promettre d'attendre leur maturité attesté par Wilson le Beachcomber avant de les cueillir. Il fait les mêmes cadeaux aux autres tribus, promettant à son retour sous un an une dent de cachalot à chaque personne lui apportant une citrouille ou un melon mûr. En outre, il laisse à Kiatonui plusieurs cochons de race anglaise et à Wilson quelques boucs et chèvres. Il laisse aussi au chef quelques tortues de Galapagos. Apparemment, ces tortues n'ont pas survécu, bien qu'elles puissent vivre jusqu'à 100 ans, et elles n'ont pas fait de descendance non plus. On n'a pas non plus trouvé de carapace quelque part dans les vallées de Nukuhiva. Par contre, et si l'on n'est pas certain des deux chèvres laissées par Krusenstern à Tau'a Matahewa de Hakau'i en 1804, on sait maintenant avec certitude que les célèbres chèvres des marquises, en tout cas celles de Nukuhiva, descendent vraisemblablement des animaux laissés par Porter en 1813. Thank you very much, Mr. Porter. Merci beaucoup, Monsieur Porter, pour ce cadeau inestimable. Afin de pouvoir visiter les lieux de culte sans restriction, et comme nous l'avions déjà signalé lors de l'émission traitant de l'imposition du tapu, Kiatonui accorde à Porter un tapu personnel en lui remettant un ruban de tapa blanc détaché du lobe d'une de ses oreilles, afin qu'il le fixe à son chapeau. Et ce signe suffit à Porter pour aller et venir à sa guise sur les enclos sacrés, Me'ai et autres sites tapu de la vallée. Accompagné de Wilson qui lui sert d'interprète, il se rend à un lieu de cérémonie rituelle en haut de la vallée Ha'avao de Taiohae. Nous allons voir que cet endroit ressemble beaucoup au Me'ai de la vallée Me'ao, dessiné par Tilesius en 1804. Au pied de la montagne, dans un vaste bosquet au bord d'un ruisseau, s'étend un paipai, sur lequel se dresse un tiki accroupi de la taille d'un homme. Porter en fait une description classique, c'est-à-dire la tête occupe un tiers, le corps un tiers et les jambes un autre tiers. Il est entouré d'autres tikis de bois d'arbre à pin de taille identique. De chaque côté des divinités se dressent deux obélisques de bambou ornés de feuilles de cocotier entrelacées et de banderoles de tapa blanc. Ils font près de 15 mètres de haut, et autour de leur socle sont accrochées des têtes de cochons et de tortues, offrandes aux divinités. Un peu à côté sont alignées quatre pirogues de guerre équipées de leurs balanciers et décorées de cheveux humains, de coquillages et de tapas blancs. Leur proue est tournée vers la montagne, vers les dieux, et à leur poupe se tient une figure d'homme en tenue d'apparat tenant la pagaie qui sert de gouvernail. La figure est ornée de plumes, de pendants d'oreilles en forme de dents de cachalot, eipa'ao, et d'autres parures d'apparat. Devant la pirogue la plus grande, Porter s'enquiert de l'identité du personnage représenté. On lui apprend alors qu'il s'agit de la représentation du Tau'a tué et emporté par les Hapa'a lors de la première guerre. Les autres pirogues sont celles de différents guerriers tués ou morts depuis peu. En s'approchant, outre l'odeur pestilentielle provenant des offrandes en état de pourriture, Porter constate, dans la pirogue du grand prêtre, la présence des deux taipirs apportés après la victoire, aux côtés d'autres carcasses humaines encore recouvertes de chair. Il apprend aussi que les deux guerriers Hapa'a tués en novembre sont dans la pirogue d'à côté, ceux pour lesquels il s'était rendu au Tohua de la vallée Me'au pour faire en sorte qu'ils ne soient pas consommés. Rappelez-vous, il en avait rapporté deux qui avaient été enterrés, les deux autres devaient subir le même sort. On devait faire les cérémonies puis ensuite les enterrer. Il n'en est rien. C'est maintenant qu'il les retrouve. On explique à Porter que la pirogue a besoin de 10 rameurs pour conduire le Tawa Hawaii, le séjour des morts. Pour l'instant, ils ne sont que 8. Il faudra donc attendre 2 morts supplémentaires et un tapu spécial a été établi à cet effet. Curieux de savoir pourquoi on avait installé les taipis avec le Tawa, il apprend que ce dernier, ayant été déifié, devenu étoua, il ne pouvait pas ramer lui-même. Et il était juste que des ennemis prennent sa place pour ramer. Voulant savoir si le défunt prendrait des vivres avec lui, on lui montra des porcs roux attendant dans un enclos et on lui expliqua que le moment venu, on cueillerait les fruits à pain mais et les noix de coco nécessaires et que les porcs seraient sacrifiés. Quand Porter demande si le trajet est long jusqu'au séjour des morts Hawaiki, on lui répond que non. Et on montre l'ouverture d'une fosse parmentée Uapakeho, identique à celle rencontrée sur les Pai Pai. On lui dit donc que l'entrée du Hawaiki se fait par cette fosse.
En incluant cette fosse-là dans la catégorie des fosses Tainui, celles qui servent à déposer les cadavres non consommés, qui par ce biais retrouvent le chemin du séjour des morts Hawaiki,
peut-être les Enana présents disaient-ils la vérité. Peut-être aussi ont-ils voulu se moquer de Porter, car en ce qui me concerne,
si l'on exclut les fosses Tainui que je viens d'évoquer,
c'est la première fois que je rencontre cette explication d'utilisation d'une fosse Pakeho pour rejoindre Hawaiki, dont tous les marquisiens savent que, entre autres, l'entrée principale se trouve au Cap Kiukiu, à la pointe ouest de Hiva'oa. À cet endroit-là, les soirs de pleine lune, on peut voir les silhouettes blanches des esprits des morts attendre leur tour, les unes derrière les autres, pour sauter dans l'entrée du séjour des morts Hawaiki, marquée par la bouche d'une grotte marine, dont le va-et-vient des vagues couvre et découvre alternativement l'ouverture.
Il faut aussi savoir que dans chaque vallée de chaque île, il existe un endroit sacré d'où s'envolent les esprits des morts afin de rejoindre l'entrée de 7 portes de Hawaiki.
On peut ajouter en outre que la localisation et la description de cet endroit,
c'est-à-dire cet enclos funéraire visité par Porter,
ressemble beaucoup à celui que décrira Radiguet 30 ans plus tard à la page 89 de son livre.
Dans la tradition globale polynésienne, Hawaiki est la terre d'origine mythique des peuples polynésiens, et nombreux sont ceux qui, dans le passé, se sont penchés sur le mot pour en découvrir la localisation exacte. Aux Marquises, sur chacune des îles, il existe un ou plusieurs endroits nommés Hawaii, Hawaii ou Waihi, autre forme du même mot. L'endroit du monde le plus célèbre qui porte ce nom est bien sûr Big Island, la plus grande île de l'archipel de Hawaï, autre forme du même mot, qui a donné son nom à l'archipel entier, et que les Hawaïens eux-mêmes prononcent Hawaii. À la page 79 de « Vie quotidienne aux îles Marquises », Dominique Pechberti nous rapporte l'opinion qu'un certain Fornander écrivait en 1878, à savoir que, comme nous l'avons déjà vu, au départ de l'Asie, Homo sapiens a pris différentes directions, vers l'ouest, vers le sud et vers l'est. Certains groupes humains seraient passés par l'île de Java, qui était un vrai paradis. De même que Samoa se dit aussi Hamoa, Java est devenu Hava. Iki ou Iti, signifiant petit, ils ont ainsi nommé Hawaiki, petit Java, les endroits qui leur rappelaient leur paradis originel, vers lequel les âmes des défunts s'efforcent de retourner. En Polynésie française se trouve l'île de Raiatea, dont l'ancien nom est Hawaikinu ou Hawaiinu. C'est sur cette île que se trouve le Mar'e Tapu Tapuatea, site sacré classé désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'où sont partis les anciens Maoris de Nouvelle-Zélande, pour lesquels cette île est devenue le séjour des âmes des défunts.
Les derniers jours du séjour de Porter sont marqués par des tentatives de rébellion et de mutinerie qu'il réprime sévèrement. Son interprète Wilson est débarqué de force et exclu de l'équipage.
Et c'est lui, avec d'autres, qui organisera la mutinerie du 18 mai 1814 contre le lieutenant Gamble, auquel Porter laisse le commandement du poste en son absence. Le 12 décembre, amplement pourvu de toute provision, Porter quitte Tioga et sur l'Essex, accompagné de l'Essex Junior, commandé par le lieutenant John Downs, celui qui avait été blessé à Taipivai. Au total, ce sont 225 hommes sur la frégate et 25 sur le deuxième navire qui quitte Nukuhiva. Secondé par l'aspirant de marine Feltus, volontaire et âgé de 16 ans, et 21 matelots, Porter laisse au lieutenant Gamble le commandement de la place, ainsi que du Seringapatam, du Sir Andrew Hammond et du Greenwich, trois navires soigneusement amarrés sous le fort de la colline Tuhiva. Porter donne consigne à Gamble de ne pas attendre son retour au-delà de 5 mois et demi et d'abandonner l'île s'il n'a pas de nouvelles de lui avant la fin de cette période. Il remet au lieutenant King le commandement du New Zealander avec ordre de se rendre aux États-Unis. Une fois au large, on apprend à Porter que manque à l'appel Isaac Coffin, un marin noir qui avait été embarqué au Pérou et qui s'est probablement esquivé avant le départ. C'est le premier cas attesté de la présence d'un noir au Marquise. Le soir même, suite à une querelle, un Tahitien du bord nommé Tamaha plonge dans l'océan, à la grande tristesse de tous qui le croient mort. Il réapparaîtra à Tioga le 20 décembre, racontant l'histoire rocambolesque de son sauvetage. Après avoir atteint l'île de Mocha au Chili, Porter prend la direction de Valparaiso, où il jette l'ancre le 3 février 1814. C'est là qu'après 6 semaines de blocus et une tentative de sortie et de lourdes pertes, il se rendra aux Anglais le 28 mars 1814 et il ne reviendra jamais à Nukuhiva.
Oho ai te pō o tunui, e noho na ione one. Uhana ui ai Nukuhiva, me te tau to o e mou. Me heta ki manu, me heta ki tai, i uka ione one. Hina Mataone, hina mataone, ka oha nui te po o tunui, i uka i ohe one. Hina mataone, hina mataone, he meta ki i puhi mai, ya hina mataone. Touching
Maintenant que Porter est parti, la vie à Taiohae va être très agitée. C'est l'anarchie. Hemo po tutia, comme on dit en marquisien. Le 13 décembre, après le départ de Porter donc, les effectifs laissés sur place s'élèvent à 3 officiers, 20 matelots et 6 prisonniers anglais, plus les 3 navires capturés dont nous avons parlé tout à l'heure. Le 15 décembre, malgré l'interdiction formelle de Gamble, les Enana mettent le feu aux herbes sèches entourant le camp américain. Ordre est donné de tirer au-dessus de leur tête pour les effrayer. Le 16, 17 et 18 décembre, le vent forcit, les 3 navires rompent leurs haussières et il est difficile de les amarrer à nouveau. Plusieurs hommes souffrent de dysenterie et de rhumatisme. Le noir Isaac Coffin, qui s'était enfui de l'Essex, est capturé et mis au fer sur un des navires. C'est l'un des 2 marchands de Santal, Ross et Burdonnel, présents à Taiohae, qui l'a repéré.
Voici un détail intéressant. La présence des 2 hommes chargés de récupérer le Santal pour leurs compagnies respectives démontre qu'il s'agissait bien d'un commerce organisé.
À partir de ce jour-là, fin décembre, et jusqu'au départ en mai, il y eut de la pluie et un vent très fort presque chaque jour. Peut-être était-ce un épisode El Niño. Le 20 décembre, pour parer à toute éventualité, 6 canons sont débarqués du Seringapatam et montés au Fort Madison, sur la colline Tuhiva. Et ce même jour, réapparaît le Tahitien Tamaha, qui avait sauté de l'Essex peu après son départ. Il raconte comment, après avoir dérivé un jour et 2 nuits en mer, il fut sauvé par un Taipi qui le ramena chez lui et le soigna pendant 4 jours, au terme desquels il le conduisit au camp. Le 21 décembre, prétextant de récupérer des affaires à terre, il disparaît plusieurs jours, ne respectant pas les consignes de Gamble d'aller et revenir avant la nuit. Ce même jour, donc le 21 décembre, on apprend à Gamble que les habitants de la vallée de Hikoe, la vallée voisine, ont tué des porcs parmi ceux laissés par Porter pour l'amélioration de la race locale. Le 22 décembre, Gamble envoie un messager leur demandant d'arrêter de tuer les porcs et de remplacer les victimes. Les Hikoe lui font répondre qu'ils ne lui doivent rien et qu'ils connaissent leur petit nombre depuis le départ de Porter. Le 23 décembre, informé de la situation par Gamble, Kiatonui lui fait part de son impuissance devant la mauvaise volonté des gens de Hikoe. Certains viennent voler des porcs devant le camp pour narguer les Américains. Gamble réclame les voleurs et compensation pour les pertes, en vain. Afin d'asseoir son autorité, il décide alors d'attaquer la vallée Hikoe avant le départ du New Zealander. Le 24 décembre à 9h, Gamble fait débarquer toutes ses troupes. Il a au préalable réparti les malades et les invalides à bord des différents navires, avec ordre de tirer un coup de canon de chaque bord dès qu'ils entendraient la détonation de son mousquet, signal que l'attaque commençait. De plus, les canons du fort sont pointés vers la colline où de nombreux naturels sont rassemblés. C'est peut-être la colline où se dresse maintenant la Grande Croix Blanche. À 9h30, Gamble se met en route à la tête d'une colonne de 35 hommes armés, un second officier fermant la marche. À 10h, arrivé au pied de la colline, Gamble fait feu de son mousquet, auquel répondent, comme prévu, les tirs des canons. Les Enana sont tellement étonnés qu'ils s'enfuient, et les voleurs de porcs passent le col du territoire Hapa. À son arrivée sur la hauteur, Gamble ne trouve qu'un vieux chef, agitant un drapeau blanc, et qui accepte de remplacer les cochons tués ou volés. À 11h, Gamble repart au camp avec des provisions de porc et des noix de coco. Il a aussi pris en otage 5 chefs et 2 Toanui. Le 25 décembre, jour de Noël, inquiet de la détention des otages, les gens de Hikoe apportent 27 porcs et des noix de coco au camp. Gamble les remercie, mais réitère son intention d'abattre les otages si on ne lui livre pas les voleurs. Le 26 décembre, Gamble fait monter les otages sur le pont de son navire et par le truchement de Wilson, revenu de Wahuka. Après une absence suspecte de 5 jours, il consent à les relâcher s'il promet de capturer les voleurs. À peine libérés, les chefs donnent des ordres dans ce sens. Un homme est capturé et transpercé d'une lance. Les autres voleurs s'enfuient à nouveau chez les Hapa. Ce même jour, ayant appris que le Tahitien Tamaha était chez les Taipi, Gamble envoie le faire chercher. Le 27 décembre, Tamaha revient à Taiohae où il est immédiatement placé en détention sur le New Zealander qui doit appareiller le lendemain pour les USA. Le 28 décembre, avec une dizaine d'hommes à bord, le navire lève l'ancre pour les USA qu'il n'atteindra jamais, en raison de sa capture par les Anglais au large de New York. Le 29 décembre, afin d'assurer une plus grande stabilité des navires, Gamble en fait emplir les cales d'eau de mer. Conscient de la fragilité de sa situation, il organise des tours de garde plus serrés. Le 30 décembre, Gamble va à Hakau'i chercher du ravitaillement. Il est bien reçu, mais décline l'invitation de rester pour la nuit. Il rentre avec 2 porcs, des cocos, des bananes, un casse-tête ou offert par le chef. Le 31 décembre, Restés calmes depuis l'intervention armée, les habitants de Hikohei continuent à approvisionner le camp en coco. Ils font preuve d'estime et de bonne volonté. Chers amis, après le départ de David Porter en cette fin d'année 1813, la situation d'insécurité que connaissent les Américains qui sont restés va contaminer la vie de la vallée jusqu'à leur départ en catastrophe en mai 1814. Ne manquez pas la prochaine émission au cours de laquelle nous assisterons à toutes ces péripéties. À bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook TEO et sur mon site internet teo.com.
Et merci à Kaiha pour sa chanson Hina Mataone, un hymne à la déesse de la lune aux yeux couleur de sable, comme son nom l'indique.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail kopo@mail.pf ou sur mon vini 87 756 719. À bientôt, apai, au Oahu.